Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det snårigt.
Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son. Feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Bourges. Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie, d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949. Aujourd'hui, donc, avec Stella Cadente, nous allons évoquer le signe du zodiaque du Cancer, qui s'étend du 21 juin au 21 juillet.
Les dames du cancer, premier décan, 21 au 30 juin. Cette petite vieille si légère qu'on croirait une jeune mendiante a pourtant eu une famille de haute bourgeoisie. Et comment donc? Elle est encore par sa vie de la haute bourgeoisie. Tiens, cette pauvrette, c'est la dame du château. Le château n'est pas à elle, il le fut, mais c'est sa sœur qui lui a pris. Sa sœur l'adore, la protège. Elle l'a pourtant volé en souriant, en l'adorant, en la protégeant, en ne pouvant se passer d'elle. Voilà le cancer, tout au moins pour le premier décan. Si quelqu'un soulignait à cette vieille frivole que sa famille l'a volée, la vieille rougirait de honte, car elle est véréconde. Elle prendrait un air offensé qu'on soupçonne un pareil méfait dans sa noble lignée. Elle pleurerait brusquement, se tairait, ferait allusion à ses malheurs innombrables, et réels d'ailleurs, et déclarerait « Je n'ai pas mérité mieux ». Voici sa vie typique, ou du moins je l'espère. C'était une enfant maigre, mignonne, caressante avec ceux qui l'aimaient, et non sans arrière-pensée de leur soutirer des cadeaux ou des sous. Plus souvent raide et boudeuse que bavarde, elle avait des mots ingénus qui faisaient dire « Je ne sais où elle va chercher tout ce qu'elle invente » ou « Ne croyez pas un mot, oncle Jules, de tout ce qu'elle dit, elle est si menteuse !» Elle, disait l'oncle, « Mais c'est la sincérité même, elle ne sait rien cacher. » Et à l'école, pourrait-on mieux faire ? Cette enfant est nerveuse et demanderait des soins, disait le bulletin trimestriel. Ou, enfant appliqué mais irrégulière dans son travail, intelligence éveillée ou endormie par intermittence. À 15 ans, elle eut un amour désordonné pour un militaire âgé de la famille. Elle se frottait à lui, pleurait sans raison. Personne n'aurait pu croire, ouais. Elle volait des sous à sa mère pour lui acheter des bouquets, devint d'une coquetterie inouïe, s'appliquant au dessin pour lui souhaiter sa fête et tomba malade. Et ici commencent ses mésaventures. Sur le conseil du médecin, on la maria. Elle s'enfuit la nuit même de ses noces, prise d'une peur atroce à l'idée de l'acte sexuel. Elle vint à Paris, recherchée par la police et la famille. On la trouva avec un homme de théâtre sans scrupules qui l'avait déflorée et voulait la faire débuter. La famille la ramena, la rendit au mari légitime qui lui pardonna, mais ne cessa de la battre tout en la comblant de gâteries. Elle refusait de chanter, de jouer du piano, comme elle faisait dans sa jeunesse. Et vers 30 ans, elle devint un délicieux bouton de rose, courtisée, bien mise, brillante, spirituelle, instruite, philosophe. Ses parents meurent, sa sœur lui vole son héritage, son mari l'abandonne, elle vit chez sa sœur et finit dans la dévotion et les remords. Pour un rien, elle retrouve le sourire, les larmes et le bavardage. Le deuxième décompte. Bien qu'encore assez mignonnes, elles ont moins de grâce que celles du premier décompte. Ce n'est plus le bouton de rose. C'est une espèce de distinction pointue avec amour des mots vengeurs et des vengeances. Elles vous rattrapent au détour et vous ressortent des histoires enterrées, et ceci de la manière la plus inattendue. Elles vous clouent par la surprise. Dans leur enfance, elles sont laborieuses et très intelligentes, et l'adolescence est le moment le plus brillant de leur vie. Ce sont des enfants prodiges. La sexualité les tue. Elles garderont toujours une distinction théâtre, mais derrière ce masque, il y a des mœurs orientales, des stations allongées. La vie est un mensonge perpétuel. Ou bien elles sont sincères, c'est dans leur gourmandise qui en fait d'exquises organisatrices de repas avec une imagination pittoresque. Une paresse foncière est cachée sous de brusques apparences d'avidité qui le fera courir en taxi de magasin en magasin, multiplier les bavardages, se donner des envies désordonnées et ardentes, puis rentrer lasse à la maison, se coucher, gémir, se dire malade, se plaindre de tout, sans cesser d'ailleurs de veiller à leurs intérêts et de mentir. Elles ne sont pas vicieuses, elles sont sexuelles. Elles ne sont pas voluptueuses, elles sont paysannes. Elles ne sont pas brutales, elles sont à la fois froides, brûlantes, brèves, avec des prétentions et des simplicités qui vont à la bassesse, à la grossièreté immonde. En affaires, elles sont alternativement trop soupçonneuses et trop confiantes, mêlant les affections et les intérêts, et sont destinées à être volées par leurs amis et déçues par leurs protecteurs. La vie comporte plusieurs liaisons d'amour vrai, un mari soumis à des caprices s'il n'a pas su les mater, ce qui, malgré les apparences, est très facile. Ce sont de bonnes filles. Ne vous y fiez pas, elles sont capables de méchancetés impitoyables parce qu'on a blessé leur susceptibilité qui est folle. Comme elles ont un grand goût des arts et des lettres, quand on les a une fois étonnées, on a barre sur elles. Si mon mari réussit à se faire prendre pour un grand penseur, elle l'admirera, ne le trompera pas et peut finir comme une grande dame respectée. À la fin de sa vie, elle est profondément revenue de tout. Elle garde le silence, regarde dans les glaces son triste visage, écrit de très belles lettres à ses amis et ne s'intéresse plus qu'aux intrigues amoureuses. Elle devient de plus en plus pauvre. En souvenir de leurs ardeurs anciennes, son mari la respecte et la soigne. Elle vit âgée. Troisième décompte. C'est la raideur même. Des êtres qui se donnent entiers à une seule idée et personnifient cette idée. Infirmières, elles sont l'infirmerie même. De sorte que malgré une bêtise profonde cachée sous un bavardage aimable, elles peuvent réussir en quelque chose qui ne demande pas de précision. L'essentiel serait de parvenir à les diriger. Or, je l'ai dit, c'est la raideur même. Comme les dames du décan précédent, l'amour peut les rendre obéissantes, mais aussi leur fluidité les fera vous échapper sous prétexte de telle ou telle idée morale. Par exemple, l'idée qu'elles sont indignes d'un pareil maître, ou qu'elles sont trop bêtes, ou qu'on ne doit pas ceci ou cela. Les décans précédents ont aussi la raideur, mais le troisième décan est particulièrement mystique dans l'enfance ou à l'âge mûr, philosophique, liseur, progressiste, scientifique entre 20 et 40 ans. Leur figure semble intéressante à cause des beaux yeux amoureux et câlins quand elles le veulent et d'un petit air pâlot gentil qui cache de la sensualité. Mais le corps est toujours dans le troisième décan éthique, contrairement aux deux autres. Les vices de la lune, gourmandise, paresse, luxure, sont ici tempérés par la philosophie et la religion qui trouvent à s'établir chez les femmes qui n'ont pas de terre, pas de terrain, pas de pieds solides, pas d'aise terrestre, pas d'assiette, ce qui se montre bien par leur légèreté. Les raides sont d'une souplesse étonnante à la danse et pourraient faire même de l'acrobatie, n'était cette paresse dont je vous ai parlé. Leur mariage leur fera peur, bien qu'elles soient attirées par la luxure. Elles auront l'amant qui les fascinera, les réduira en esclavage. Une fois ouvertes, oh, quel débordement! Si la philosophie et la religion n'ont pas triomphé, elles seront aimées souvent et on les laissera tomber d'eux-mêmes. Alors, rage, bile, vengeance, fureur, discours philosophiques. À 40 ans, si elles ont persévéré dans une de leurs applications en TT, elles ont une situation pédagogique, artistique ou vendeuse. Mais il y a toujours quelque chose d'instable qu'elles sentent bien. Aussi se raccrochent-elles éperdument. Elles seront toujours et toujours très malheureuses malgré des accès de joie. Elles soupireront sans cesse après la paix, le confort, la propriété des choses et ne l'auront jamais que par un mari ou par un amant. Leur vieillesse est pleine de souvenirs bavards et résignés. Mais on ne croit pas à leurs plaintes. On les prend volontiers pour de vieilles toquées charmantes. Les femmes du cancer gardent toute l'idée et l'envie de l'amour jusqu'à la mort. Leur but secret, c'est la jouissance des sensations, car elles n'ont pas les sens délicats. Thank you.
le cabinet de curiosité ne contient aujourd'hui qu'un objet. Un objet sans grand intérêt, un morceau de plomb écrasé, que j'ai acquis il y a des années dans une vente aux enchères privée à Paris. Je n'ai pas acheté l'objet, mais son histoire. Et c'est celle-ci que j'aimerais raconter. Pour ce faire, je vais lire la notice qui lui était consacrée dans le catalogue de la vente. 50 000 au téléphone. L'objet porte le numéro 65. Balle de maître loup. Balle de plomb écrasée en couronne par l'impact. Une face présente des vagues bombées et plissées, mais une surface lisse, l'autre, en creux, est marquée d'un désordre de traces brutales dont certaines retiennent des fragments ligneux. Le centre est vide, le diamètre total est d'environ 4 cm, la largeur maximum de la couronne d'environ 1,5 cm. Objet rituel, Transylvanie, région de Tuchea, vers 1950, recueilli en 1993. Ceux qui voulaient devenir chasseurs de loups en Transylvanie devaient se rendre capables de tuer les trigailles, chefs des hordes n'apparaissant que la nuit, redoutables parce qu'habités par l'esprit d'un homme mort. Il était nécessaire pour cela de pratiquer un rituel de transgression terrible. Le jour de Pâques, après la première sonnerie des cloches, le chasseur fixait une hostie consacrée sur un arbre, puis, d'un seul coup de feu, la perçait d'une forte balle de plomb. Il devenait alors maître loup et pouvait fondre le plomb récupéré dans le bois meurtri pour en faire des balles propres à tuer les trigailles. La balle ici mise en vente a été offerte par un vieux chasseur du Tuchea. Son père, né en 1880, avait pratiqué le rituel et au cours de sa vie avait tué 40 loups dans la région. Après de longues hésitations, son fils, qui se consacrait depuis l'adolescence à la chasse, décida à plus de 44 ans de devenir à son tour maître loup. À Pâques, il attirait selon le rite, puis récupérait la balle sur un jeune chêne dans un vallon, aussi loin que possible du village, suffisamment près cependant pour entendre la première cloche. Mais, a-t-il ajouté, il était trop tard, et les loups déjà rares ne s'étaient plus montrés. N'ayant pu parachever par le meurtre d'un trigaille le rituel, il ne souhaitait ni garder la balle jusqu'à sa mort, ni la donner à quelqu'un du village, mais à un étranger de passage. Je l'ai accepté. Le vieil homme semble ne m'avoir pas tout dit. Il a en effet précisé ultérieurement que, peu après qu'il eut lui-même accompli le rituel, son père, le maître loup, avait disparu lors d'une battue nocturne et n'était jamais revenu chez lui. Or, une croyance assez répandue dans la région est que le maître loup prend la place du premier trigaille qu'il tue. Ce qui paraît cohérent avec la logique implicite du rituel. En effet, symboliquement, tuer le Christ, qui sauve de la mort, au moment même de sa propre naissance, c'est s'approprier son pouvoir, devenir maître du passage. Maître des métamorphoses, ce qui est un thème constant dans la région. Tout aussi cohérent d'ailleurs avec cette hypothèse est le nom même de Maître Loup, et non Maître Louvier, qui semble indiquer comme un soudain passage du côté des loups. Ceci expliquerait d'ailleurs la distance qui s'instaure aussitôt entre eux et la population, distance faite de peur et de respect, mêlée dans une sorte d'effroi sacré. Il est donc possible que le chasseur, après la disparition du Maître Loup, ait reculé par crainte d'être amené à tuer son propre père. Peut-être aussi avait-il été impressionné par la forme prise par le plomb. Il paraissait en effet attribuer de l'importance au vide central de la balle qui s'était comme refusé à broyer le corps du Christ, mais l'avait couronné de plomb. Sur un point au moins, il n'a pas dit la vérité. Il y a encore des loups, non loin de Tuchea. J'en ai vu dans la montagne, ainsi que le cadavre d'une vache dévorée par une horde au bord d'une rivière. Se refusant à l'achèvement du rite, le chasseur s'était sans doute placé dans une situation impossible. Il ne pouvait plus espérer échapper à la mort par sympathie avec le Christ et se refusait à l'autre voie, celle de la métamorphose. Proche de sa mort, peut-être a-t-il tenté, par la transmission de la balle, de déjouer le piège où il s'était mis. Reste la question de savoir s'il attribuait à la balle en elle-même une vertu, malgré l'inachèvement du rituel. il semble que oui, puisqu'il n'a pas voulu le transmettre dans le village afin, certainement, de protéger son père.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. And if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
Laissons maintenant la parole à Marc Mercier pour la lecture des notes du bulletin d'écoute numéro 12 du 9 février 1958 d'Armand Robin.
8, 7, 8, 4, 5, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Maintenant que le Spoutnik ne dispose plus d'émetteurs de radio, les astronomes des observatoires d'Odessa, de 26 autres localités, l'URSS continue à observer les évolutions du satellite. Des notes sur ces évolutions parviennent aussi de l'Allemagne de l'Est, de la Tchécoslovaquie, de l'Écosse, de l'Irlande, etc., ainsi qu'avec divers astronomes amateurs d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud, etc. Mêmes émissions. Le journal de Ceylan s'élève contre le projet d'établissement d'une base aéronavale anglaise dans les îles Maldives. C'est une menace contre la sécurité de Ceylan, s'écrit ce journal, et un défi à la lutte des peuples du sud-est asiatique pour leur libération. Le sort de l'État israélien. À écouter en cette fin de semaine les radios israéliennes, l'auditeur a le sentiment étonnant de se trouver devant une radio qui donne avant tout des nouvelles des pays arabes voisins, et cela sur le ton le plus courtois et le plus compréhensif. Cela peut étonner le lecteur de ce bulletin, mais, nous l'avons déjà fait pressentir ici, tout se passe comme si, en fin de compte, l'État israélien s'apprête à se résigner à devenir une sorte d'État arabe, à se fondre dans le Moyen-Orient, bref, à se désoccidentaliser. Turquie, émission en castillan pour les nobles peuples d'Amérique latine. Deux écoutes en cette fin de semaine. Ici aussi, il se passe quelque chose de curieux. À part la question de Chypre, voire plus bas, on ne diffuse que des nouvelles locales ou d'intérêt local. En comparaison, l'émission de la radio suisse sur ondes courtes pour les Tocinois vivant à l'étranger a un caractère plus universel et plus général. La question de Chypre, cela depuis au moins 2 mois maintenant, est constamment le sujet suprême. Ankara en est arrivé à établir un parallèle entre le problème de Chypre et le problème de l'Inde, préconisant comme seule solution possible la séparation de l'île entre les deux communautés, de même que l'Inde a été répartie entre Inde et Pakistan. Deux écoutes du service de la radio de Moscou. Pour les Ukrainiens à l'étranger. En fait, presque exclusivement pour les Ukrainiens vivant au Canada et aux États-Unis. Aucune propagande politique. Des nouvelles, des succès, voire des succès locaux, des artistes ukrainiens. Notons la prédominance de l'accordéon, d'une part, des ensembles vocaux, de l'autre. C'est quelque peu au niveau villageois, sur le plan artistique, mais justement, il s'agit de persuader les Ukrainiens émigrés que la vie quotidienne normale est rétablie en Ukraine. Même l'actuelle propagande intérieure russe sur la présentation des candidats est épargnée à ses auditeurs ukrainiens de l'étranger. Alors, notes diverses, suite, le comité central du Parti communiste argentin vient, seulement maintenant, de publier une résolution approuvant la déclaration des partis communistes étrangers à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution d'octobre. Moscou, service pour l'Amérique latine. All India Radio, en anglais et en français. Violente prise de position anti-française au sujet du raid sur Saqiyat Sidi Youssef. Diffusion d'un texte attribué à une personnalité officielle française, l'armée française restera en Algérie aussi longtemps qu'il le faudra. Le roi d'Afghanistan va venir à New Delhi. Solution très molle aux dernières déclarations de Ho Chi Minh. Ceylan et l'Union soviétique ont signé leur premier accord commercial hier. Le service en français de New Delhi n'est pas officiellement destiné à la France, c'est certainement vrai, étant donné qu'il passe à 00h30, heure de Paris, sur 30 mètres. Qu'il faut un bon poste sur onde courte pour l'écouter. L'annonce officielle est « Émission en français de All India Radio pour le sud-est de l'Asie » et « Pour les services diplomatiques et consulaires de l'Inde à l'étranger ». Je n'ai absolument rien compris à cette dernière annonce insolite. Bon, j'ai peut-être mal entendu.
Maintenant fermez les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Aujourd'hui, vous avez entendu, par ordre d'apparition, Monica Zetterlund, Stella Cadente accompagnée par le Modern Jazz Quartet, Richard Galliano, Emmanuel Gallet lu par Alain Bourges, accompagné par François Salk, Hélène Merrill et Stan Getz, Marc Mercier et, en ce moment même, Henri Mancini. C'était un vrai bonheur de vous savoir avec nous et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.